9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serran est heureux de vous retrouver. Bon, tu me diras que tu m'as entendu pas plus tard que mardi dernier. Et pour tous ceux qui ont écouté l'émission, vous avez probablement constaté que j'étais d'une incompétence absolue pour résoudre les énigmes. Heureusement que je suis meilleur en droit qu'en découverte d'énigmes. Mais à propos d'énigmes, mon cher Philippe, le message que vous m'avez envoyé cette semaine était énigmatique.
Ah.
Vous avez donc eu la gentillesse de me faire parvenir un lien intitulé... Non mais on peut en parler.
Ouais, vas-y, on peut dire tout.
Donc un lien intitulé La bonne posture pour faire caca.
Bah alors, oui, c'est bien pour
émission...
vous ça.
Non, ouais. On est d'accord, ouais. Mais une émission donc animée par vous, où on apprenait à faire caca correctement.
Oui. Alors,
nos auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver cette vidéo sur YouTube. Et votre invité pour cette émission n'était autre que Madame Ibtissam Belmadani, plus communément appelée, selon vos déclarations, Madame Caca. J'ai donc visionné cette vidéo et à ma grande surprise, on découvre que votre invité faisait la promotion des toilettes turques, frère, que ça permettait un alignement du côlon et du rectum. On appelle ça la stratégie du trou de balle aligné. J'ai même appris qu'il ne fallait jamais pousser. Alors, faut croire que votre invité a pour habitude de chier liquide tout le temps, car quand t'es normalement constitué, tu pousses quand même pour te vider. Mais revenons un moment sur le principe des toilettes turques.
Oui.
Je suis de la génération, mon cher Philippe, et par conséquent, vous encore plus que moi, donc de cette génération qui a connu, durant sa scolarité, le principe des toilettes turques. Ces fameuses toilettes où tu devais te tenir debout, légèrement penché, main sur les cuisses. Et comme au jeu du toucher-couler, tu devais faire en sorte que ton caca tombe dans un trou pas plus gros qu'une balle de tennis. Et combien de fois j'ai eu le malheur de lâcher ce missile directement sur l'arrière de ma basket, et ça fâche, mais c'est rien encore. Car quand t'as fini ta mission caca, t'appuies sur la chasse d'eau, sauf que le système de chasse d'eau était particulier. Car combien de fois j'ai appuyé sur cette chasse d'eau, et là, problème de réglage, probablement, un véritable tsunami qui sort des toilettes, qui envahissait tes baskets. Ainsi, après avoir eu dans un premier temps de la merde fraîche sur tes pompes, tu te retrouves avec de la merde mouillée mélangée à du papier bien collé sur tes chaussures. Allez, mon cher Philippe, vous direz donc à cette femme que pour rien au monde, j'échangerai mes toilettes traditionnelles avec des toilettes turques. Bon, allez, stop, ça suffit, ces histoires de caca, à vous la parole. Posez vos questions, 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, prince des toilettes turques.
C'est vrai.
Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
C'est vrai. Mais c'est vrai que tout le monde, tout ce que vous dites là, tout le monde l'a vécu, ça.
Non, mais c'est une punition.
Ah ouais, c'était mouillé de partout.
C'était la maltraitance. C'est pas possible.
Mais on dit que c'est le système le plus adapté, maître.
Ouais, en tout cas, le moins classe et le moins pratique.
Bon, sinon, vous avez bien compris que vous pouvez aussi investir dans un tabouret.
Oui, c'est ce que j'ai cru. Pour lever un peu
pieds.
Ouais,
donc, je pense que maintenant, Mme Serran, pour sa Saint-Valentin, vous lui rapportez un petit tabouret.
Bon, bah écoutez, on va faire ça. Non, ce qu'il faudrait, c'est essayer de faire caca en faisant le poirier.
Voilà. C'est pas mal, ça. Je viens d'avoir une image.
On est d'accord.
J'en parle pas. C'est vrai que vous retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM.
Il faut regarder.
Maître Serran, l'actualité de cette semaine nous a beaucoup fait parler du cyberharcèlement. Et en fait, c'est vraiment très nouveau, puisque finalement, la loi qui encadre le cyberharcèlement a moins de 4 ans. Hein.
Alors, on a déjà effectivement une première loi qui date du 4 août 2014. Donc, on parle pas directement de cyberharcèlement, mais on indique effectivement que cette agression, parce qu'on peut parler d'agression, peut se faire via des réseaux sociaux. Mais le terme cyberharcèlement n'apparaît pas à ce moment-là.
C'est harcèlement.
Voilà, on parle d'harcèlement entre guillemets assez classique. Aujourd'hui, depuis cet été, depuis le mois d'août dernier, on a précisé les termes concernant le cyberharcèlement. Donc on a focalisé le délit.
Donc c'est un délit, hein. C'est un délit
à la différence que, alors la spécificité de ce délit, c'est quoi? C'est qu'auparavant, avec la loi de 2014, si vous aviez une personne qui, entre guillemets, envoyait... non, mais... non, mais c'est pas... Donc, c'est sûr qu'enchaîner après une histoire de caca, c'est compliqué.
C'est compliqué, oui.
Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Donc, je vais faire en sorte de ne pas vous regarder. Non. Excusez-moi, c'est pas un manque de politesse.
Vous avez pain au chocolat à côté.
Non, mais... Exactement. Et donc, bon. La différence, c'est que dans, pour la loi de 2014, on parlait d'action individuelle. C'est ça qui est important. Et le délit était, en droit, on dit constitué à partir du moment où il y avait une répétition dans l'acte. La loi de 2018 est tout à fait différente. On parle de cyberharcèlement dans le sens où on va sanctionner ce qu'on appelle des raids numériques. C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui ne sont pas obligées de se connaître et qui vont prendre à partie un individu, alors un homme, une femme, peu importe, mais on pourrait parler d'action de groupe.
Et il faut que l'action soit groupée. Si c'est qu'une personne, ça fonctionne pas.
Voilà. Si c'est qu'une personne, c'était déjà sanctionné auparavant.
C'est le harcèlement classique.
Voilà. Le harcèlement classique. D'accord. Et puis à partir du moment où on a une répétition, le délit est constitué. Là, on parle d'action de groupe. Mmh. Alors, soit toutes les personnes se connaissent et puis on va cibler X ou Y, soit via les réseaux sociaux, on se rend compte, entre guillemets, qu'on a un point commun, en tout cas une haine commune à déverser à l'encontre de X ou de Y, et c'est cette action de groupe qui est sanctionnée. Alors l'action de groupe est sanctionnée. On a ce qui s'appelle des circonstances aggravantes. Il faut savoir que la sanction de base est d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, mais ça peut monter à 2 ans et ça peut monter à 3 ans lorsque la personne ciblée le cas de la personne
il y a une
ciblée,
question d'âge
bah oui, constitue ce qu'on appelle une circonstance aggravante. Si vous avez moins de 15 ans, si vous êtes une personne dite vulnérable, si vous êtes une personne enceinte également, donc la circonstance aggravante est reconnue. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile en la matière. Il faut savoir d'abord, mais ça c'est des conseils basiques pour éviter d'en arriver là. Il vaut mieux, là encore, faire en sorte de pas balancer tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors ça semble être le bon sens, mais il faut pas donner des bâtons pour se faire battre. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on balance sur les réseaux sociaux. Et puis ça vaut particulièrement pour les plus jeunes de ceux qui nous écoutent. À partir du moment où vous avez cet aspect-là, le risque, c'est que la personne s'isole. Parce que j'ai n'importe quoi, mais si un jour, vous avez mis une photo de vous dénudée et qu'elle est reprise, on n'a pas spécialement envie d'en parler ni à ses parents, ni à ses potes. Donc il faut faire attention à ça.
Bah, c'est là-dessus qu'il joue, hein, finalement. Que vous pouvez avoir.
C'est complètement ça. Et c'est pire que tout, parce que si vous ne réagissez pas, alors quitte, encore une fois, à prendre ça sur vous, il n'y aura pas de fin. Donc il faut évidemment pas hésiter d'abord à en parler à des adultes, hein, si vous êtes un jeune mineur, en parler à des responsables au sein de votre établissement scolaire. Et puis, il faut déposer plainte. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous ne déposez pas plainte, il y a aucune raison que ça puisse cesser, que ça puisse s'arrêter. Alors évidemment, d'aucuns diront, mais on peut écrire aux hébergeurs pour dire, attendez, il y a une vidéo dégradante ou autre, il faudrait la retirer. Techniquement, oui, c'est possible, sauf qu'on sait que ça se passe pas toujours dans des délais raisonnable, et puis parfois on vous écoute pas du tout. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'à partir du moment où, en dehors de l'aspect purement pénal, hein, c'est-à-dire de la plainte à les déposer auprès du commissariat ou d'une gendarmerie, vous pouvez écrire à l'hébergeur. Et si l'hébergeur, dans le délai d'un mois au minimum et 3 mois au maximum, ne fait pas le nécessaire, il y a une institution qui peut être saisie, qui est l'institution de la CNIL. Donc il va falloir mettre ça en avant auprès de la CNIL pour que la CNIL puisse intervenir. Mais on sait très bien que sur Internet, on ne peut par définition pas effacer définitivement les photos qui seraient compromettantes. Alors la meilleure chose à faire, c'est la prévention. Donc faut faire attention à ça, et en particulier, puisque ça, on le voit, et je le vois même dans des dossiers de procédure de divorce. C'est-à-dire que quand vous avez des gens, alors qui sont en concubinage ou qui sont mariés, On s'aime, on s'apprécie, alors on s'envoie des photos X ou Y, et puis ensuite, quand il y a une rupture, quand il y a une séparation, il y en a toujours un qui veut faire le malin et qui va utiliser ces images-là, qui va utiliser les photos que lui-même a pu prendre au moment où le couple s'entendait pour ensuite balancer ça sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc c'est terrible. Il faut pas devenir paranoïaque, mais il faut être extrêmement prudent.
Alors je crois que c'est là, c'est une condition de survie élémentaire.
Complètement
de ne jamais envoyer une photo à qui que ce soit.
Ça, mais vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je peux comprendre qu'au sein d'un couple, comme dirait l'autre, on peut s'envoyer une photo, entre guillemets, un peu coquine, sauf que le couple, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, on s'aime, mais demain, et c'est la nature humaine, quand il y a un conflit, et nous, on le voit, j'ai vu X fois des clients venir avec des photos dénudées. Alors, en règle générale, c'est monsieur qui fait ça à l'égard de madame, dénudée de madame. Bon, c'est quand même gênant, parce que quand vous posez la question en disant « Mais pourquoi vous me donnez ça et qui a pris la photo ?», vous découvrez que c'est monsieur qui a fait le nécessaire et qui, aujourd'hui, a envie de balancer ça. Donc, c'est assez, pardon pour le terme qui est pas joli, assez cradingue. Donc, avant tout, c'est la prévention. Parce qu'une fois que c'est sur les réseaux sociaux, je le redis, même si techniquement, il y aurait des possibilités d'effacer le tout, on est dans le domaine du quasi impossible. Donc il faut faire attention à ça. La prévention avant tout et la sécurité des uns et des autres. Donc ne balancez pas vos photos dénudées ou pas d'ailleurs au travers des réseaux sociaux.
On a le temps pour le délai de prescription ou pas là, parce que ah oui d'accord.
On peut pas. Ouais,
oui, parce que je vous ai alerté parce que moi je trouvais que le délai de prescription en la matière pour porter plainte suite à un cyberharcèlement était pas très long et vous m'avez dit si c'est pas mal.
Oui, puisque vous me disiez que le délai de prescription est de 6
ans.
Alors il faut savoir que auparavant des délits de cette nature on était sur 3 ans donc on est passé à 6 ans.
Ça a doublé, ouais.
Voilà, mais c'est 6 ans à partir du dernier acte, à partir du dernier message. Donc ça laisse quand même qu'on le veuille ou non largement le temps de se préoccuper de la situation. Après, il faut être diligent. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé d'attendre, les 6 ans moins 1 pour dire, tiens, je vais déposer plainte. Mais honnêtement, moi, 6 ans, ça me semble être un délai.
C'est confortable.
Un délai qui est quand même raisonnable. Faut faire attention parce que la loi ne protège pas les idiots ou les inactifs. C'est-à-dire qu'il faut quand même être assez vigilant, mais ne comptez pas sur la loi pour vous protéger ad vitam aeternam.
Bien, si vous souhaitez poser vos questions à Maître Serran ce matin, vos questions d'ordre juridique, bien sûr, 01 53 48 3000, non pas sur ses chaussures, 01 53 48 3000, Maître Serran répond à vos questions dans un instant.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Eh oui, Maître Serran, c'est la technique, vous savez, qui commande, toujours.
C'est des choses qui arrivent.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose.
Non, on peut être
non,
là.
Mais je vois
alors,
que ça bouge.
Tiens, demain, je vous donne rendez-vous 9h-10h avec Steve Abdelkarim pour une spéciale masterclass sur le mindset du succès. Donc demain, 9h-10h. Si ça fonctionne.
D'ici là, quand même. Mais là, ôtez-moi d'un doute,
Nos
auditeurs. Nous entendent là quand même.
Là, on est à l'antenne.
Oui, voilà, on est à l'antenne.
On est à l'antenne. D'accord. C'est simplement que ça coupe, que vous avez la publicité qui part un petit peu quand elle veut, quand elle le décide. Alors, maintenant, la question qu'on se pose et qui est importante,
dites-moi.
Ça va. Alors, le téléphone a l'air de fonctionner.
Youpi.
Alors, on va accueillir quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes à l'antenne. Oui.
Là, la personne
est à l'antenne.
Moi, je n'entends pas, c'est normal.
Non, alors, non, attendez.
Si.
Allô ?
Ça grésille.
Oui,
voilà, vous êtes à l'antenne. Quel est votre prénom, monsieur ?
Amir.
Amir. Et vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Nogent-sur-Marne.
Très bien. Écoutez, ça fait plaisir de vous entendre, Amir.
Ça, je confirme.
Voilà. Et Maître Serran écoute votre question.
Oui, Maître Serran, j'ai une petite question. Vous m'excuserez, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou pas. En fait, une personne qui dépose plainte contre vous, par exemple, moi je dépose plainte contre vous, et malheureusement, les aléas de la vie, rien à voir avec l'histoire dont j'ai porté plainte contre vous, moi je décède. Est-ce que l'histoire continue ou est-ce que ça s'arrête vu que je ne suis plus de moi ? Malheureusement, tout le monde.
Oh, c'est une bonne question, ça.
Alors, mais comme
mais vous avez compris, c'est comme, si quelqu'un dépose plainte contre quelqu'un d'autre et qu'il meurt entre-temps, est-ce
alors
que l'affaire. Ben, celui qui pose
celui
plainte.
Celui qui visait par la plainte ou celui qui dépose plainte ?
Celui qui dépose plainte.
Celui qui dépose plainte décède, mais. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire dont on a déposé plainte contre vous, les aléas de la vie.
Il meurt de mort normale, quoi. Il n'a pas été assassiné, ni suicidé.
Mais on est, pour bien comprendre, c'est celui qui dépose plainte qui décède.
Voilà.
Je dépose plainte aujourd'hui, hop, le type, il est mort demain.
Voilà.
D'accord. Alors, il faut savoir que quand on dépose plainte, la plainte est transmise. Alors, soit d'abord, vous déposez plainte directement entre les mains du procureur de la République, soit vous déposez plainte au sein d'un commissariat, d'une gendarmerie, et la plainte est transmise au procureur de la République. C'est-à-dire qu'ensuite, on appelle ça l'action pénale. C'est-à-dire que même si demain vous vous retirez, même si demain il y a un décès ou autre, le procureur de la République pourrait regarder les faits, et s'il considère qu'une infraction a été commise, l'État, pour faire simple, peut continuer la procédure. Donc ça, c'est techniquement possible.
Si la personne n'est plus de ce monde.
Ouais, on est d'accord, c'est-à-dire que c'est la personne qui a déposé plainte qui décède.
C'est ça.
Eh ben, quand bien même, à partir du moment où la plainte est déposée, entre guillemets, on ne maîtrise plus sa plainte. À partir de ce moment-là, c'est l'État qui va prendre en charge ce dossier. Donc, d'ailleurs, vous savez, il n'y a pas besoin qu'une personne décède pour que la plainte n'aboutisse pas. C'est-à-dire qu'il arrive parfois qu'une personne dépose plainte, et puis le procureur donc reprend la plainte à son compte. Et la personne, le jour de l'audience, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait si elle veut pas maintenir sa plainte? Eh ben, elle vient pas tout simplement. Ou alors elle vient et elle demande pas de dommages et intérêts. Donc c'est le procureur qui va remplacer l'intéressé. Donc là, en l'occurrence, c'est la même chose. Après, un procureur peut considérer que la plainte était assez légère, que la plainte n'est pas constituée, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il peut ne pas donner suite à ça. Mais le fait que l'auteur de la plainte décède ne va pas changer le cours du dossier.
D'accord, très bien. C'était ma question. Superbe.
Voilà.
Et c'était la réponse de Maître Serra, Amir. Est-ce que la réponse vous convient?
Très bien, nickel.
Merci, Amir.
Merci, Amir.
Très bien.
Passez un bon week-end. 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM que vous composez pour interroger, poser une question à Maître Serra. Allô, bonjour. Non.
Non, ça marche pas, là.
Non.
Mais là, on nous entend, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler dans le vent. Ah?
Non.
Non, c'est un type qui nous a mis sa propre radio.
C'est ça. Alors 01 53 48 3000.
C'est fou ça.
Ça fonctionne. Ça a fonctionné, Maître Serra.
Ouais.
Sinon, vous, ça va?
Bah écoutez, ça va.
Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end, Maître Serra? Parce que...
Ah, c'est une vraie question. Je vais sûrement aller au cinéma. J'ai le plus petit qui. Il y a un dessin animé qui s'appelle Ralph, je crois.
Ralph. Donc ça, c'est bien. Vous allez voir Ralph.
Je vais l'accompagner, à savoir qu'à chaque fois que je vais voir un film au cinéma, et c'est véridique, je m'endors. C'est-à-dire que je paye en fait rien. Dès que le film commence, je suis dans l'ambiance où mon cerveau sommeille également. Et je me réveille très souvent.
Avant la fin.
Générique, générique de fin.
Ouais.
Je suis obligé d'être présent pour accompagner plus petit, mais c'est pas rentable si on peut raisonner comme ça.
Vous en profitez pour récupérer.
Mais tant qu'à faire, je préfère récupérer sans payer, je sais pas, c'est 10 euros,
c'est
je crois,
cher, quelque chose
comme ça, sans compter, parce qu'il faut bien manger des pop-corn, une boisson, enfin...
Ah oui, non, là c'est plus du cinéma, là, c'est un investissement...
C'est vrai, mais donc le truc c'est ça, donc je serai au cinéma et si vous me voyez dans la séance du film Ralph, un type qui dort, c'est moi.
C'est vous,
voilà,
vous pensez y aller où, parce que ça nous intéresse aussi, finalement?
Écoutez, probablement, il y a un cinéma où je vais régulièrement, puisque c'est pas tellement loin de mon boulot, c'est à Rosny-sous-Bois.
Mmh. Voilà, donc, est-ce que vous ronflez quand vous êtes au cinéma?
Je ne ronfle pas, mais paraît-il, après Madame Serran, il m'arrive parfois de ronfler. Rarement de péter, mais parfois de ronfler.
Ouais.
Ça peut m'arriver.
Ah oui, ça pourrait déranger les gens dans la... Alors, si vous avez bien écouté l'émission d'ITSM lundi, il ne faut pas dormir sur le ventre. Mais c'est sur le ventre qu'on ne ronfle pas.
D'accord. Mais on ne fait pas caca au cinéma non plus. On ne peut pas tout mélanger. Parce que là, c'est plus possible. On ne va pas tout ramener à ça.
Non, mais au cinéma, par contre, vous avez des toilettes.
Oui, c'est vrai.
Qui sont rarement à la turque.
Non, ils ne sont pas à la turque. Donc, je ne les utilise pas. Je fais ça juste à côté. Tant pis, j'aurais dû prévoir des toilettes turques. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on va raconter encore? C'est-à-dire que...
Non, mais j'ai d'autres sujets, si vous voulez.
Sérieux?
Ouais. Mais...
Je suis preneur.
Alors, il y a un auditeur ou pas? Oui.
Au secours.
Non. Alors, oui, il y a un auditeur. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bienvenue, bonjour.
Merci de nous appeler. Vous nous sauvez.
Vous êtes avec moi, là?
Oui.
On n'est qu'avec vous.
Oui. Monsieur...
Attendez. Quel est votre prénom? Comme ça, on fait connaissance.
Nadia.
Nadia.
Oui.
Bon, Nadia, vous avez une question pour Maître Serran, j'imagine.
Oui, alors ma question, monsieur, s'il vous plaît. On avait acheté une maison, et quand on a acheté cette maison, elle a été divisée en trois.
D'accord.
Nous, on avait la maison, elle était déjà construite. Et après, parce que l'agence, quand elle nous a vendu, elle nous a vendu la maison. Et après, il y avait trois lots. Ils ont vendu deux lots, mais le troisième, le propriétaire, il l'a pas vendu. Alors nous, ils nous ont construit la maison collée avec nous et ils nous ont fermé le tout à l'égout.
D'accord. Et la alors, question, c'est quoi?
Nous, ça fait déjà 4 ans qu'on est là, on n'a que des problèmes graves.
Qui c'est qui vous a fermé le tout à l'égout, Nadia?
Ben, c'est que quand ils ont construit dans le terrain, parce qu'il y avait trois terrains,
oui.
Deux, ils ont été vendus, et le troisième, puisqu'ils ont vu qu'ils ont fait des dégâts, maintenant il est invendable. Il ne construit pas. Et nous, quand on a acheté, il y avait les trois lots. Et quand ils ont construit, ils nous ont collé la maison, ils ont fermé.
D'accord. Juste pour comprendre, Nadia, pardon. C'est-à-dire que vous me dites, quand vous avez acheté, il y avait les trois lots. Mais vous êtes porté acquéreur des trois lots?
Non, nous.
Non, vous aviez deux lots.
Non, un lot.
D'accord.
Nous, la maison, elle était déjà construite.
Alors, la maison est déjà construite. Vous achetez cette maison.
Oui.
On est d'accord. Et à côté de votre maison, il y avait deux autres lots?
Il y avait trois. Deux, ça a été vendu. Et le troisième, ils ne l'ont pas vendu. Il est invendable.
D'accord.
Parce qu'ils ne peuvent pas construire.
D'accord. Enfin, peu importe qu'il soit invendable ou pas, le troisième ne vous concerne pas vous directement. On est d'accord?
Non, pas
d'accord.
Du tout. Non.
Donc, il y a les deux autres lots qui sont vendus.
Oui, ils sont construits.
Voilà, donc ils sont construits. Et vous me dites, on vous a fermé le tout à l'égout.
Il nous a fermé le tout à l'égout. Ils nous ont collé les maisons. Et ils nous ont fermé quatre fenêtres.
Madame, après le voilà. Alors après coller les maisons, enfin il y a ce qui s'appelle un plan d'occupation des sols. J'imagine qu'il y a un permis de construire qui a été déposé par les uns et les autres. Alors là, c'est difficile de vous dire ils ont raison ou pas raison. J'en ai aucune idée, mais j'imagine que si le permis de construire a été accordé donc à ces personnes, c'est qu'a priori. A priori, ça ne devait pas poser de difficultés au niveau de la construction. Et vous me dites qu'on vous a fermé des fenêtres.
Oui. Et là, le tout à l'égout, le monsieur, quand il a commencé à construire, il nous a fermé. Et on avait l'expression de la merde partout.
Bah oui, c'est le cas de le dire, oui. J'en ai parlé dans ma chronique.
Oui, on a tout le temps ça. Et on a que des problèmes dans cette maison, que des problèmes.
Bon, mais quand alors, initialement, madame, quand vous avez acheté le tout à l'égout, il existait.
Oui.
D'accord. Oui. Donc, quand vous posez la question éventuellement au service de la municipalité, à la mairie, c'est on vous dit quoi par rapport à ça, par rapport à ce fameux tout à l'égout?
Je vais vous dire, nous on est à Chevron.
Ouais.
Et à Chevron, tout s'achète avec de l'argent, avec la mairie, avec tout.
Ouais,
tout
mais alors si on raisonne comme ça, on n'avance pas. Bon, après, je sais pas si Chevron, ça fonctionne comme ça ou pas. J'en ai aucune idée.
Oui.
Mais après, c'est aussi du droit. Est-ce que de manière officielle, vous avez interrogé le service de l'urbanisme de la mairie de Sevran?
Oui, on les a... Ben, eux, ils ne savaient pas. Ils lui ont dit normalement au monsieur qui a construit de laisser le tout à l'égout en bas.
Ouais.
Et lui, il a dit, moi, je ne vais pas laisser sous ma maison ça. Et depuis ce jour-là, ben, on n'a que des problèmes.
Mais alors, dans ces cas-là, on peut se retourner contre qui, Maître Serran?
Alors, c'est pour ça que on a besoin de savoir si, encore une fois, dans le cadre du permis de construire, si une ou des erreurs ont pu éventuellement être commises. Mais la première personne contre laquelle on peut et on doit se retourner, c'est le propriétaire de ce pavillon qui aurait fait en sorte que le tout à l'égout soit obstrué ou fermé. Donc il faut commencer par ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire constater ça. Après, dans la mesure où j'ai pas suffisamment d'éléments, il y a deux options. Alors soit vous engagez une procédure normale et classique, et puis vous en avez pour des années de procédure devant un tribunal de grande instance. Soit on considère que ce tout à l'égout qui est fermé et on ne sait pas trop pourquoi, constitue un élément urgent, et dans ce cas-là, éventuellement, mais c'est vraiment sous toute réserve, une procédure de référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, pour demander à un magistrat de statuer sur sur ce point. Maintenant, je le redis, la procédure d'urgence, la procédure dite de référé, est une procédure qui est assez spécifique, qui ne peut être engagée que dans quand les conditions, des conditions particulières sont réunies. Donc, je ne sais pas si dans le dossier de madame c'est réuni ou pas, mais le premier acteur, en dehors de madame et en dehors donc du propriétaire de ce bien qui a fait en sorte de fermer le tout à l'égout, il faut d'abord s'adresser encore une fois au service de l'urbanisme. Il n'y a qu'eux qui pourraient dans un premier temps voir un peu ce qui se passe. Et quand vous vous adressez au propriétaire de d'abord, il y a un dialogue avec lui ou pas?
Non, je parle pas avec lui. On a toujours des prières hier déjà. On s'est insulté.
Ouais, ça aide pas ça pour avancer. Alors, c'est quoi? Il est complètement imperméable à toute discussion. Quand vous lui dites ça,
lui,
il répond quoi?
Lui, c'est sa loi. Moi, je suis là. Et nous, bon, moi, ça fait 55 ans que je suis en France. J'ai jamais eu de problème. C'est la première maison là qu'on a ce problème là. Jamais. C'est la première fois que j'ai un problème avec un voisin comme ça.
D'accord. Donc c'est depuis que cette personne est arrivée que ça pose des difficultés.
Voilà, depuis qu'il est venu.
Ouais, faut l'éliminer, le mettre dans votre fosse sceptique. Je vois pas d'autre option. Mais comprenez bien qu'il existe on appelle ça un système de médiation. C'est-à-dire que je vous disais, voyez d'abord avec le service de l'urbanisme. Ce serait intéressant que la mairie, faut pas oublier que c'est la mairie qui délivre les permis. Ce serait intéressant que la mairie se prononce là-dessus. Mais il existe aussi, madame, une médiation qui peut être organisée par un responsable de la mairie. D'ailleurs, dans toutes les mairies, il y a un service de médiation. Est-ce que vous avez, alors je dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais est-ce que vous avez fait, entre guillemets, de votre côté, cet effort-là?
Non, pas du tout. Non.
Ouais, parce que, vous savez, bon, encore une fois, moi, je sais pas si ce type est insupportable ou pas, mais s'il n'y a pas de dialogue entre vous, ça va être très compliqué. Et entre guillemets, pardon de le dire comme ça, la perdante dans l'histoire, ça va être vous, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des procédures qui sont possibles, mais elles sont très longues. Et donc, pendant
est-ce que je peux écrire une lettre au magistrat?
Non, ça fonctionne pas comme ça. Le magistrat, on lui envoie pas des lettres. C'est-à-dire que soit vous vous rapprochez, je le redis, je me répète,
du service de l'urbanisme,
soit vous engagez directement une procédure, mais c'est pas. Bah voilà, puisque c'est pas un courrier qu'on envoie à un magistrat. Et je vous dis, il y a deux options. Alors il y a la procédure entre guillemets rapide, mais sous réserve, madame, qu'elle puisse être applicable dans votre situation. On appelle ça un référé. Et puis, il y a une procédure, entre guillemets, classique, mais ça va vous prendre des mois, pour pas dire des années.
Et là, on est en train de brancher les tuyaux, là, les tuyaux de 125, 160. Les tuyaux qui passent chez lui, ils sont sous la terre.
Ouais.
Il faut vider des bennes pour pouvoir tirer les. Et on va refaire un autre système pour pouvoir, en attendant.
Oui, mais pareil, c'est-à-dire que.
Garder,
mais hein, là, de ce que vous êtes en train de me dire, c'est-à-dire que pour voir cet autre système, il faudrait évidemment, là encore, l'accord de ce monsieur, manifestement.
Oui. Voilà, ben je sais pas comment on va faire.
Non, mais bon, encore une fois, selon moi, vraiment le.
Il est déjà allé à la mairie.
Bah, voilà, c'est ce que j'ai. Alors, en vérité, il vaut mieux discuter.
Je viens vous voir.
Voilà, il vaut mieux discuter avec son voisin, mais manifestement, ça passe pas. Donc, voyez d'abord avec la mairie et le service de l'urbanisme.
Oui, d'accord, monsieur.
Bien.
Merci, monsieur Serra, je vous remercie beaucoup. Je vais prendre votre numéro, je vais vous rappeler.
Il n'y a pas de difficulté.
On va le donner tout à l'heure après la publicité,
maître Serra. Tout à l'heure.
D'accord, merci Nadia.
Merci Nadia.
Puisque maître Serra, vous restez avec nous, le standard a priori refonctionne, donc vous appelez maître Serra au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et vous posez vos questions en direct à Maître Serran. Le standard refonctionne, donc vous pouvez composer le numéro 01-53-48-3000. Toutes vos questions juridiques à Maître Serran, 01-53-48-3000. Nadia, Maître Serran vous a demandé votre numéro de téléphone.
Oui,
que je vous demande, s'il vous plaît, de répéter, de rappeler, rappeler à nos auditeurs.
Alors, 06-62-58-59-64, 06-62-58-59-64.
Voilà. Si vous envoyez un mail à Maître Serran,
c'est possible aussi.
Ouais.
Mais sans photo, sans rien.
Non. Voilà. Pas de harcèlement.
Non, pas de photo. Maître.Serran, S-E-R-H-A-N-E @gmail.com.
Voilà. 01-53-48-3000 pour poser vos questions directes à Maître Serran. On l'a vu souvent. Le droit, c'est pas comme on voudrait. Il y a des procédures à suivre. Et puis c'est vrai que même si c'est compliqué, le dialogue est préférable à tout, parce que sinon on tourne en rond et on se retrouve, on finit par se retrouver dans des situations qui sont ingérables.
Mais il y a jamais de gagnant dans un procès.
Au jeu de con.
Non, mais c'est vrai. Quand chacun reste sur sa position, alors il va y avoir un procès, ça va vous coûter des sous, vous allez perdre beaucoup de temps, mais tout le monde y perd des plumes. C'est ce qui fait d'ailleurs que depuis quelques années se développent de plus en plus des médiations.
Ouais.
Et on a aussi des avocats maintenant qui sont formés spécifiquement à la médiation. Donc essayez autant que faire se peut de privilégier la médiation. Ou alors, si vous êtes en position de force, il y a le mode torture et autres. Mais je suis avocat, je ne peux pas mettre ça en avant.
Mais pas une milice que vous pouvez prêter à vos clients.
C'est-à-dire que je vais peut-être ouvrir une petite société en parallèle.
D'accord.
Voilà, donc on pourrait éventuellement faire ça. Mais vraiment, il faut privilégier le dialogue. Et je le redis, rapprochez-vous des maisons du droit, rapprochez-vous des mairies. On a toujours un système de médiation. On va convoquer les uns et les autres. Ça permet parfois d'apaiser un peu les tensions. Et ce serait évidemment l'ultime recours. Et ensuite, bon, après, il y a la justice qui pourra trancher.
Amel est avec nous, Maître Serran, 01-53-48-3000. Amel, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Maître Serran, bonjour
à Amel.
Bonjour à l'équipe.
Bienvenue.
Je me permets de vous appeler parce que je me retrouve dans une situation un peu compliquée avec mon employeur. Donc j'ai été agressée, je suis chauffeur de bus, j'ai été agressée en 2015. Donc j'ai été subrogée et donc je suis restée chez moi sans souci pour ma convalescence. Et ensuite à ma reprise, donc on m'a retiré ma ligne de référence. Donc on m'a envoyé sur des lignes ingrates dites de panier, donc avec une énorme rétrogradation pécuniaire. Alors,
d'accord.
J'ai pas accepté.
Ouais.
Ils m'ont dit que j'étais très procédurière, donc j'envoyais beaucoup de recommandés, donc ils m'ont jamais répondu. Et puis j'ai pas eu mes compléments de salaire. Ils m'ont proposé un poste de ménage parce que je ne pouvais pas trop conduire, j'étais en panique. C'est tout ce qu'ils m'ont proposé. J'ai refusé par courrier parce que c'était une proposition tacite, hein, les paroles s'envolent comme on dit, et rien d'écrit. Donc on a insisté pour que je retire mon mi-temps thérapeutique parce que je suis revenue avec beaucoup de difficultés. On m'a mis une pression et on m'a fait retirer mon mi-temps. Donc là je me balade entre arrêt maladie je erre un petit peu. Ils veulent pas me reprendre et les syndiqués disent qu'ils veulent ma tête et qu'ils veulent mon licenciement.
Alors qu'est-ce qui a priori vous avez été victime, donc j'ai du mal à comprendre
une agression.
Ouais, voilà pourquoi on s'excite sur vous et on fait pas en sorte que tout ça rentre dans l'ordre. Ça pourrait entre guillemets s'expliquer objectivement de leur côté. Je sais pas, vous auriez fait quelque chose qui aurait pu énerver tout le monde ou y a rien qui justifierait.
Alors,
si tant est que ça puisse être justifié, évidemment. Hein.
Si, alors moi, vous savez, là, normalement, quand on est subrogé, donc la subrogation doit être appliquée et on doit être payé par l'employeur.
Ouais.
Malheureusement, j'étais payé à minima et la subrogation n'était pas appliquée. Donc, chaque fin de mois, je venais quémander mon rappel de salaire. Donc, ils m'ont amoindri financièrement et je venais péter des plombs, quoi. Sans manquer de respect, évidemment, mais en leur disant je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas un ordre de virement. Je campais avec mes enfants pour leur dire je veux mon dû. Voilà, il y a ça.
Et par rapport au délégué du personnel, au syndicat, ça dit quoi sur votre situation ?
Je suis désolée de vous dire que la CGT, malheureusement, s'est dévendue. Hein.
Comme ça, c'est fait. C'est dit.
Comme ça, c'est fait.
Ouais. On ne sait plus à faire.
Voilà, c'était vendu, donc les NAO et tout ce qui est des réunions GP, sincèrement, ils s'en foutent plein les poches, entre parenthèses. Alors, je me suis orientée vers la CFDT qui sont juste. Malheureusement, ils ont plus de pouvoir, tellement que la CGT est un gros groupe. Et ils sont plutôt faibles. Et ils m'ont dit de prendre un syndicat à l'extérieur, syndiqué de routier à l'extérieur, ce que j'ai fait. Et eux, ils m'ont dit d'aller au prud'homme parce que ça s'appelle presque du harcèlement. Là.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, évidemment, il y a une éventuelle procédure de prud'homme. Mais la finalité dans leur raisonnement, ce serait quoi? C'est-à-dire qu'ils attendent quoi? Une démission de votre part et c'est terminé ou ils veulent?
Ils veulent me mettre une inaptitude. Alors moi, j'ai demandé une éventuelle inaptitude, mais sauf qu'ils doivent me trouver une fiche de poste. Et malheureusement, la fiche de poste, vu que je suis la tête à abattre, ils vont me proposer évidemment des postes qui sont vraiment pas similaires à mon poste et mes qualifications. Donc là, ils m'ont proposé un poste de ménage. Et ils m'ont dit sinon ça sera gardienne dans un parking. Donc là c'est vraiment un rabais total. Donc moi
c'est curieux comme manière de faire. Enfin on a vraiment l'impression qu'il profite d'une situation pour vous dégager tout simplement.
C'est ça. Tout à fait. Et le médecin du travail m'a dit de pas reprendre. Il m'a dit que c'est impossible vu les neuroleptiques que je prends. Il m'a dit que ça serait vraiment d'aller au charbon que de vous laisser reprendre un bus.
Si vous prenez des neuroleptiques, vous me l'évitez, oui.
Mais vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire sur le principe. Vous avez conscience de.
Oui, bien sûr.
Après, il n'y a pas mille options, c'est-à-dire comprenez bien que si, manifestement, c'est une situation qui va se retrouver au prud'homme, mais l'employeur, quand vous me dites qu'il vous propose tel ou tel poste, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va officiellement vous proposer un poste X ou Y et de deux choses l'une. Soit vous vous dites, je vais entre guillemets m'en contenter et puis tout va rentrer dans l'ordre. Soit vous dites que ces postes-là ne vous conviennent pas et puis c'est l'employeur qui prendra l'initiative du licenciement à charge ensuite devant un éventuel conseil de prud'homme pour l'employeur de justifier qu'il aurait essayé de chercher partout un poste qui pourrait vous convenir et que comme on dit à l'impossible, nul n'est tenu et que manifestement malgré les recherches de bonne foi de l'employeur, on n'a rien trouvé d'autre. Donc
alors de bonne foi entre
non, enfin, de, oui, non, enfin, on est d'accord, hein, enfin, voilà,
oui,
c'est-à-dire
on
que,
est d'accord,
voilà, devant,
moi,
devant, devant temps, un conseil de prud'homme, il dira qu'il a recherché, mais vous avez raison de préciser de bonne foi entre parenthèses, puisque manifestement, c'est pas le cas.
Non, du tout, parce qu'entre temps, je vous cache pas que bon, j'ai été très, entre parenthèses, vicieuse, c'est qu'ils m'ont proposé un poste de ménage, mais entre leur proposition et aujourd'hui, moi, j'ai postulé à des appels d'offres à l'extérieur de mon dépôt, directement au siège. Donc, ils n'ont pas la main prise sur toutes les appels d'offres. J'ai postulé et en parallèle, on m'a appelé pour passer les tests. Ça veut dire qu'il y avait des postes à pourvoir.
Manifestement, alors ce sont quand même des éléments, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est tout. Sauf vicieux, c'est normal d'essayer de réunir un certain nombre d'éléments pour démontrer cette fois-ci la mauvaise foi de l'employeur, puisque c'est sur cette base-là que tout ça va se jouer si demain vous étiez amené à saisir le conseil de prud'homme. Mais manifestement, vous y allez, quoi. Ça me semble un peu difficile de trouver un terrain d'entente entre ce que vous me dites et la position un peu tordue de votre employeur.
Ouais, c'est impossible. Parce que là, les mecs de la CGT m'appellent pour me dire, viens signer ta rupture conventionnelle si tu la veux. À croire que c'est leur société, quoi. C'est eux qui la gèrent.
Non, mais même chose. Voilà, la rupture conventionnelle, on peut pas vous l'imposer. Après, vous regardez si vous avez l'impression que les conditions peuvent vous convenir. Vous savez, parfois, il faut pas. Le clash, le litige, le conseil de prud'homme, et je le redis, ce sont des délais qui sont longs, donc parfois c'est pas forcément la meilleure des options, mais il faut pas, entre guillemets, brader votre dossier. Si vous avez l'impression que la rupture conventionnelle ne vous convient pas, et dans ce cas-là, c'est un magistrat qui statuera sur votre litige.
Continuer mes démarches au niveau de les attaquer au prud'homme, ça il n'y a pas de
Ah oui, non mais bien sûr.
D'accord, ok.
Bien sûr, encore une fois, eux vont essayer de démontrer qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, tout ce qui était possible pour éventuellement vous trouver un poste qui puisse convenir à votre situation. Mais ils devront le démontrer. Donc c'est ça qui est important.
Voilà Amel, ce qu'on pouvait vous dire. Alors Lydie, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour maître.
Bonjour Lydie.
Merci. S'il vous plaît, je vous appelle parce que j'ai ma fille, elle est étudiante Donc, elle est obligée d'aller faire ses études à Lyon. Donc, elle habite à Lyon et après, elle a été mutée à Montpellier. Donc, elle a pris un logement en colocation à Montpellier.
Ouais. Et,
voilà. Sauf que la propriétaire, la propriétaire dans le même appartement. Sauf que la propriétaire, le premier jour, donc, elle a reçu un prix. Donc, elle a refusé de lui donner le bail de location, l'inventaire, juste à donner. Donc, elle n'a rien fait tout ça. Elle a juste fait des chèques, parce que moi, j'ai envoyé ici. Elle a encaissé des chèques et trois jours après, ma fille, dès le début, elle a fait son bail. Oui, après. Et trois jours après, elle a dit pour ajouter 400 euros. Ma fille, on s'est mis d'accord sur tel prix et tel montant de charges. Ah non, elle est devenue toute chose, cette propriétaire. Donc, jusqu'au point de la pousser, l'habiter, etc. Et elle la met à la porte à 23h le soir.
Alors juste pour essayer, je suis désolé parce que on entend pas très bien et c'est assez saccadé. Juste pour comprendre, c'est-à-dire oui. Que vous me dites que votre fille donc était en colocation.
Exactement.
D'accord. Il y a un bail qui a priori a dû ou aurait dû être signé. Ça a été fait ou pas?
Non, la propriétaire a refusé de faire.
D'accord. Bon, mais votre fille a bien occupé les lieux. C'est-à-dire que c'est la propriétaire qui fait la compliquée, la pénible et qui fait rien signer.
Voilà.
D'accord. Les conditions de location étaient définies, c'est-à-dire que votre fille, avant de mettre un pied dans cet appartement, elle savait très bien sur quelle période et combien elle devait régler.
Exactement, voilà. Donc le prix s'était défini, c'était une chambre, hein, une chambre dans un appartement.
Ouais.
Le prix s'était défini, 390 euros, charge comprise.
D'accord.
Et trois jours après, donc elle a pris la chambre le 4 février. Et vers le 7 février, elle a dit à ma fille, non, il faut rajouter 40 euros par mois.
D'accord.
Voilà. Et ma fille, elle a dit, mais vous ne m'avez pas trouvé comme ça le premier jour. Vous avez dit 390 euros, charge comprise. Et vous avez encaissé le chèque de mes parents, un chèque de caution, plus le mois de loyer.
D'accord. Le bien dont vous êtes en train de me parler, c'est-à-dire que votre fille occupe une chambre. Mais le propriétaire qui lui complique la vie habite les lieux également.
Habite les lieux également.
Ah ouais, donc c'est vrai qu'au niveau litige, après, ça devient très, 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 très compliqué. Donc, elle l'a mise dehors.
Elle l'a mise à la porte. Elle l'a mise à la porte le 13 février, à 23h, parce que ma fille, elle était en panique. Elle m'a appelée en pleurant, etc. Et elle m'a mis le haut-parleur et j'ai entendu la propriétaire en train de lui crier dessus, de la pousser. Et elle a dit, tu ne passes pas la nuit ici chez moi, dégage d'ici. Et ma fille, elle était en train de pleurer. Elle a dit, mais je ne passe pas mes nuits, où est-ce que j'ai? Je ne passe pas mes nuits, c'est matin, je vais parler à mes parents, mais c'est matin. Elle dit, non, je ne veux plus pouvoir. Soit 40 euros, vous rajoutez 40 euros, sinon je ne veux plus pouvoir. Alors, la voisine du palier, elle est sortie de la personne parce qu'elle a entendu de venir. Elle a proposé à ma fille de venir cette nuit. Sauf que ma fille, elle a eu peur. Elle connaît pas ces gens-là.
Oui, évidemment, oui, ce que je peux comprendre.
Voilà, elle a eu peur. Elle a dit, non, je passe pas la nuit chez vous. Non, je passe pas la nuit chez vous. Après, bon, le voisin, il a parlé à la propriétaire. Il a dit, laissez-la passer cette nuit ici et demain, elle part. Et la propriétaire, c'est censée juste pour humilier et effrayer ma fille, elle a fait semblant d'appeler la police. Après, elle retranche et elle dit, voilà, la police, ils ont dû à 24 ans pour partir d'ici.
Alors, elle a quel âge votre fille, madame?
19 ans.
Bon, c'est vrai, c'est une jeune majeure. Alors évidemment, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que la police peut intervenir si votre fille a agressé cette femme, mais on est à des années-lumière de cette histoire. Donc, alors, vous voyez, la difficulté, c'est que rien n'interdirait à votre fille. En vrai, on parlait tout à l'heure d'une procédure d'urgence, une procédure de référé. Alors évidemment que ça peut se faire. Le problème, c'est que quand on habite le même lieu que le propriétaire contre lequel on est en litige, ouais, l'ambiance va être assez malsaine.
Non, excusez-moi, maître, je vous coupe la parole. Elle est partie. Moi, je lui ai parlé demain matin. J'ai dit à ma fille, prends tes affaires et tu seras malade.
C'est peut-être la meilleure chose à faire dans un premier temps.
Voilà, j'ai dit, prends tes affaires et tu sors. Elle va te faire basculer tes études. Elle va te rendre malade. Donc c'est pas le but. Si tu es à Montpellier, si tu es loin de moi, c'est pour. C'est
non,
pour,
mais vous avez raison. Si vous avez raison.
Pour rendre malade. Donc elle est partie chez sa copine. J'ai appelé sa copine. Je l'ai supplié et tout ça. Elle l'a hébergée. Donc elle est depuis hier soir, elle est hébergée chez sa copine.
D'accord.
En donc, attendant de trouver un nouveau.
Bon, alors après il y a deux choses. C'est-à-dire que si vous considérez ou si elle considère que des menaces ont eu lieu ou qu'elle a éventuellement fait l'objet de violence, alors je sais pas, être bousculée par exemple. Donc il faut pas hésiter à aller déposer plainte auprès du commissariat. Ça c'est sur l'aspect purement pénal. Ensuite, sur l'aspect purement civil, à partir du moment où vous êtes locataire d'un bien, le propriétaire peut pas comme ça vous dégager ou alors modifier les conditions les conditions financières du contrat, parce que on va imaginer même 30 secondes cette histoire des 40 euros en plus ou en moins. Mais quand bien même ce serait vrai, alors je dis pas que le propriétaire a raison, mais imaginons que votre fille ne peut pas rajouter ses 40 euros alors que ça avait été prévu. De toute manière, la loi interdit au propriétaire de mettre quelqu'un dehors manu militari, c'est-à-dire de virer tout simplement la personne. Dans ce cas-là, le propriétaire est quand même obligé d'engager une procédure d'expulsion. Mais on peut pas balancer les gens en disant bah, « vous me devez 40 euros, allez dehors ». Donc le fait déjà qu'elle soit partie, alors c'est une bonne chose, ça va l'apaiser. Après, il y a un tribunal qui est compétent pour ça, donc il faudra saisir le tribunal d'instance du lieu du domicile et demander dans ce cas-là réparation. Mais c'est la seule option.
Voilà, vous pouvez prendre le numéro de Maître Serran, Lydie, rapidement, Maître Serran.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Merci Lydie, merci Maître Serran et nous vous retrouvons vendredi avec beaucoup Inch'Allah. De plaisir.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.